Le débat du 7-10.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Débat ce matin sur plusieurs affaires de violences sexuelles et sexistes présumées qui percutent l'actualité, font la une ou l'objet de documentaires à la télévision. Il y a d'abord le complément d'enquête sur Gérard Depardieu qui est mis en examen pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle et visé par une plainte récente également pour agression sexuelle. Autre cas, la garde à vue de Frédéric Becbédé dans le cadre d'une enquête préliminaire après le dépôt d'une plainte pour viol. Enfin, le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vichra, en garde à vue pour violence conjugale, mais là, pas de plainte déposée. Trois cas très différents, mais une même question ce matin. Assiste-t-on à une nouvelle vague MeToo à retardement en France ou à la réactivation de ce que certains aiment appeler le tribunal médiatique ? On en débat avec Laure Hennick, qui est avocate au barreau de Paris, auteure de La justice contre les hommes chez Flammarion, et avec Marie Dauzet, également avocate au barreau de Paris.
Bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet qui vient encore percuter l'actualité. Je précise, Marie Dauzet, que vous êtes l'avocate de Frédéric Becbédé. Alors, avant toute chose et avant de rentrer dans le vif des sujets, parce que ces trois cas, il ne faut pas les mélanger. D'abord, on est averti des gardes à vue de Frédéric Becbédé ou de Mathias Vichra à 48 heures d'intervalle. On l'annonce, on en débat, comme ce matin, sur les plateaux, avant même que la justice ait pu se prononcer et puis même entamer son travail. Vous êtes avocate toutes les deux. Est-ce que ça vous choc ou vous trouvez ça normal à la fin que ça passe dans les médias quelques heures, quand ils sont encore en garde à vue hein.
Marie Dauzet ?
Non, moi je viens de déposer plainte pour violation du secret de l'enquête, parce qu'il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Quand on est auditionné en garde à vue, et en l'occurrence c'était le cas il y a 48 heures, je reçois, moi, sur mon téléphone portable, pendant l'audition, des demandes de journalistes qui me confirment, qui me demandent de confirmer la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Frédéric Becbédé. Puis ils apprennent le motif, est-ce qu'il est bien en garde à vue pour ça? Et puis, petit à petit, je me rends compte qu'ils en savent plus que moi. C'est-à-dire, n'oublions pas que lorsque on est dans le cadre d'une enquête préliminaire, je n'ai pas accès au dossier, je n'ai pas accès à la plainte et le mis en cause non plus. Et on se rend compte que les journalistes sont informés en temps réel de ce qu'il se passe, mais de surcroît, ont des informations que même l'avocat, même le mis en cause, n'ont pas. C'est quand même problématique.
Qui parle ?
Donc en fait,
qui parle ?
Ah bah là, alors là, les journalistes sont évoqués de sources policières. Moi, je dépose plainte contre X. C'est pas à moi de savoir qui a révélé quoi que ce soit. Mais c'est pourquoi est-ce que le secret de l'enquête doit exister encore ? D'abord parce que c'est la seule façon de préserver la présomption d'innocence. Et puis surtout, c'est la seule façon de faire en sorte que les investigations se déroulent dans la sérénité. Dans la sérénité. Et on l'oublie complètement, ça devient une espèce de jeu médiatique de savoir qui est placé en garde à vue, pourquoi, et surtout quand il s'agit d'une célébrité. Et pour moi, ça fait du mal à la justice.
Laure, vous êtes d'accord, ça fait du mal à la justice ou non ?
Oui, mais ça fait pas que du mal à la justice, ça fait du mal au débat de société. Moi, j'entends bien là qu'il y a une atteinte aux droits de la défense, et les droits de la défense, c'est aussi les droits de la société, c'est les droits des femmes, c'est les droits de tout le monde. C'est-à-dire, ce sont pas des droits qui sont en concurrence, ce sont des droits qui doivent cohabiter. Et le débat de société, qui est le débat journalistique aussi, c'est un débat d'intérêt général. Et bien sûr que ce débat commence sur une règle qui est brisée. Et des règles, elles n'existent pas pour rien. C'est pas seulement l'avocat ou le mis en cause qui n'a pas accès au dossier. C'est personne dans les débats. Et pourtant, tout le monde commente. Donc, pourquoi ne pas attendre ? Et ensuite, il y a que des brèches. Est-ce qu'il faut continuer à travailler ? Et qui parle de quoi ? On ne sait pas bien. Je crois qu'il faut vraiment un temps
parce
de prudence et d'attente.
Oui, mais parce que aussi, souvent, les victimes, elles parlent aussi avant que la justice ne se soit prononcée, elles parlent dans les médias, elles se défendent ou elles expriment les choses, elles prennent la parole. C'est aussi ça
Rarement en premier quand même. Hein. On a quand même elles prennent la parole aussi, évidemment, mais parce qu'il y a eu des fuites policières, judiciaires, nous on ne sait pas d'où elles viennent. On peut toujours déposer des plaintes, ça nous arrive dans tous les sens, mais la liberté d'expression est tant mieux, elle est extrêmement protégée en France. Elle a quelques limites, elle a quelques abus, mais elle est extrêmement protégée. Le droit, c'est de parler. Et nous, ici, on est là aussi pour protéger ce droit. Mais il faut bien dire que les femmes qui parlent et qui sont en droit de raconter leur histoire et leur récit, et elles font bien, en général, de reprendre cette parole qui leur est confisquée, en général, par les médias, il faut bien le dire.
Pourquoi vous dites ça ?
Mais parce que justement, à partir du moment les médias qui donnent, bien sûr, ils donnent la parole aux femmes. Mais avant d'avoir donné la parole aux femmes, il y a eu cette brèche et là, ces gardes à vue qui ont été interrompus, qui ont fait irruption dans la société. Et à un moment, il faut se réapproprier le discours avec des avocats qui prennent la parole ou des plaignants.
Non, mais il y a deux registres qui se confrontent. C'est-à-dire que effectivement, il est rare que la plaignante prenne la parole médiatiquement avant même de voir sa parole judiciarisée, c'est-à-dire qu'elle dépose plainte ensuite, et il est vrai que souvent, lorsqu'elle décide de médiatiser son propos, c'est parce que des fuites ont commencé, et qu'elle veut corriger quelque chose. Là, en l'occurrence, dans l'affaire de Frédéric Becbédé, c'est pas elle qui a pris la parole. C'est deux sources policières, voilà ce qui se passe. Et on retranscrit une partie de sa plainte. Et moi, je ne peux pas contredire certaines informations qui ont été divulguées par la presse et qui sont fausses. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de la sérénité des investigations à venir pour établir la fausseté de ce qui est allégué.
Mais puisque vous parlez de Frédéric Becbédé, on va aborder le cas Depardieu dans un instant, mais puisque vous parlez de Frédéric Becbédé, je suis obligée de vous poser la question de sa réponse à lui, puisque lui publie un communiqué aussi. Est-ce que ça contribue à la sérénité des enquêtes et des investigations ? Juste après la garde à vue, il a réagi par communiqué. Je remercie les effectifs du commissariat de Pau de m'avoir accueilli dans leurs locaux. Deux réserves cependant, le poulet au curry était sec et ma voiture s'est retrouvée à la fourrière le temps d'une garde à vue de quelques heures à peine. Il manque décidément un parking devant ce commissariat. Alors ça, c'est... on connaît le style Becbédé, il réagit comme il veut, mais ça a choqué. Sandrine Rousseau a tweeté la honte, rappelant que son accusatrice avait 17 ans, et Cécile Delarue, l'une des journalistes qui est victime présumée de Patrick Poivre d'Arvor, a parlé d'un communiqué dégueulasse. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais attendez, on est en train de tout mélanger, c'est bien ce qu'on est en train de démontrer. On mélange absolument tout. Tout le monde sait qui est Frédéric Becbédé, il est impertinent, il est sarcastique, certains l'aiment justement pour ça, d'autres le détestent justement pour ça, et on ne va pas réconcilier ici les deux camps, je ne parle pas de ça. En quoi ce communiqué porte atteinte aux investigations à venir, à la sérénité de la justice en cours ? C'est tout, on sait qui il est. Mais je parle ici de la procédure judiciaire. Il n'a pas divulgué une seule information. J'ai moi-même publié un communiqué, qui serait peut-être plus important de reprendre, qui pose sa position et qui demande surtout à ce que le secret des investigations soit préservé. Le communiqué du procureur est assez intéressant. C'est assez rare de constater qu'un procureur termine son communiqué par « rappelons que M. Frédéric Becbédé est présumé innocent ». C'est ce qu'il faut retenir.
Laurénique ?
Oui, mais c'est dommage de presque banaliser les choses comme il le fait. Enfin bon, j'entends bien ces pirouettes, mais ce qu'il faudrait dire à tout le monde, c'est que les conditions de garde à vue, il faut le dire, je pense, aux hommes comme aux femmes, sont indignes en France. C'est extrêmement dur. Elles sont quasiment systématiques en matière de violence. Et pourquoi pas, hein, la société avance, mais il faut le dire aussi. C'est deux jours...
C'est sa manière de le dire de manière impertinente.
On le connaît, c'est comme ça qu'il le fait.
C'est de manière impertinente. Mais résultat, on parle de l'impertinence, alors que le vrai sujet, ce sont les conditions de garde à vue. Je veux dire, il parle du poulet qui était trop sec, mais enfin, faut voir quand même qu'il y a des rats, qu'il y a de la pisse sur les oreillers qu'on vous donne, enfin, que les gens en ressortent fracassés. C'est pas ça, la justice. La justice, elle est pas là pour fracasser les gens, ni les uns, ni les autres.
Le dire.
Encore un mot, Marie Dosé, et puis on va aller sur l'affaire de Pardieu.
Et c'est pour ça que moi, cette garde à vue systématique me pose une difficulté. Il existe, en droit français, l'audition libre. Là, je l'avais demandé, par exemple, pour Frédéric Becbédé, en disant, de toute façon, il va s'expliquer, il n'y a pas de difficulté. Et très franchement, on choisit tout le temps ce régime de la garde à vue, alors même qu'on pourrait entendre les uns et les autres mis en cause dans le cadre d'une audition libre qui préserve la dignité beaucoup plus que cette mesure.
Oui, et cette dignité, elle est valable pour les deux parties. Je pense qu'il y aurait, je ne connais pas du tout ce dossier, ni la plaignante, mais aucune difficulté pour la plaignante de savoir que celui qu'elle accuse est entendu dans des conditions qui ne dorment pas dans des conditions qui sont tout à fait insalubres. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des mesures de systématicité en ce moment, qui sont aussi celles qu'on retrouve dans la société.
Sur l'affaire Depardieu, je rappelle que l'acteur est mis en examen depuis 2020 pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux. En avril dernier, Mediapart avait publié le témoignage de 13 femmes qui assurent avoir été ses victimes sur des tournages sur la période 2004-2022. La semaine dernière, une deuxième plainte pour agression sexuelle a été déposée contre lui. Gérard Depardieu s'est exprimé dans le Figaro. Il a écrit la chose suivante. Je ne suis ni un violeur ni un prédateur au tribunal médiatique, au lynchage qui m'a été réservé. Je n'ai que ma parole à opposer. Fin de citation. Que dit l'affaire Depardieu, selon vous, Marie Dosé ?
Alors, les affaires Depardieu, parce que ça, c'est un peu compliqué. Il y a les accusations contre lui qui sont judiciarisées, pour lesquelles il est mis en examen. Il y a les accusations dont il s'explique devant la justice, mais qui sont prescrites. Donc là encore, ce qui s'est passé sur certains tournages. Et puis il y a ces 7 minutes de rush, ces quelques minutes de rush en 2018, qui ne pourront pas faire l'objet d'une judiciarisation, hein, puisque là, en l'occurrence, ça sera aussi prescrit. Je vais vous dire, moi, la femme que je suis n'arrive pas à regarder ça jusqu'au bout.
Pourquoi ?
Parce que c'est immonde, parce que j'y arrive pas, parce que c'est grossier, parce que c'est violent, parce que je déteste ça, je n'y arrive pas. Voilà. La citoyenne que je suis ne sait pas quoi en faire. Ne sait pas quoi en faire parce qu'en fait, la citoyenne que je suis aurait tellement aimé que ces roches soient d'abord données à la justice, en temps et en heure. Que ces roches puissent être judiciarisées, qu'une plainte ait pu être déposée pour que la justice s'en saisisse.
Et donc que ce ne soit pas diffusé dans les médias ou dans complément d'enquête
la difficulté,
avant.
Quel est le dessein de diffuser des propos aussi violents à une heure de grande écoute ? J'en sais trop rien. Moi, je n'ai pas d'attrait pour le déboulonnage, je n'ai pas d'attrait non plus pour le bannissement. Bien sûr que c'est important de savoir que sur certains tournages, ces comportements violents doivent cesser, mais quelque chose me gêne. La citoyenne que je suis, parce que justement l'enceinte judiciaire me rassure, et que là, en l'occurrence, elle n'est plus possible, la citoyenne que je suis ne sait pas où ranger
L'avocate de Gérard Depardieu a dit que dans son cas, la présomption d'innocence avait éclaté en France.
Non, c'est pas la présomption d'innocence.
Enfin, c'est pas judiciarisé.
Moi j'aime bien entendre, quand j'entends Marie Dosé dire « je ne sais pas quoi en faire », moi je trouve que c'est sain quand on ne sait pas quoi en faire des choses. C'est ça la nuance aussi, c'est que en fait, on est mal à l'aise. Mais ce qu'on sait quand même de Gérard Depardieu, c'est que il est mis en examen depuis pas mal de temps et que pour le coup la presse s'en est pas tellement fait l'écho, et qu'il y a un moment donné où on se dit bon, il a bénéficié de cette puissance là quand il valait pas mal d'argent, maintenant qu'il vaut plus rien, bon, on en parle aussi pas mal. Je veux dire, la présomption d'innocence, elle est pour les puissants, elle l'est beaucoup moins pour les autres. Moi j'aimerais bien qu'on parle de la présomption d'innocence de tous ceux qui passent en comparution immédiate, qui prennent 4 ans en 20 minutes et qui sont jugés à 2h du matin. La présomption d'innocence de Gérard Depardieu, de Frédéric Becbédé, pardon, elle m'intéresse pas beaucoup, quoi. Parce que quand même, ce sont pas les puissants qui...
Vous avez l'impression que l'impunité demeure pour les personnes, pour les personnalités, pour les gens connus.
Mais c'est pas que les personnalités. Vous voyez, on parle beaucoup des personnalités et des gens connus. On ferait mieux de parler des catégories sociales. Parce qu'il y a quand même des catégories sociales qui répondent pas devant la justice. Et c'est pas que les personnalités. Vous voyez, vous et moi, quand même, on est assez protégés. On sait très bien qu'on ira jamais en prison, même si on commet une infraction. Et qu'on... Il y a beaucoup d'infractions. Vous voyez, quand on est né à l'étranger, quand on est pauvre, quand on appartient à une catégorie sociale qui est inférieure, on a 8 fois plus de risques, exactement pour la même infraction, d'aller en détention. Et j'entendais ce matin assez tôt sur votre antenne qu'on a 10 fois plus de risques d'être violé quand on est migrant. Bon, il y a des catégories sociales qui répondent plus, bien sûr, des infractions, et les biais de la justice ne peuvent pas se contrebalancer, et donc le risque est carcéral, alors que pour
Marie
nous, il
Dosé.
Ne l'est pas.
Marie Dosé,
alors,
ouais.
Sur la question de l'impunité dans ce type d'affaires, et notamment s'agissant celle de Gérard Depardieu, il faut faire très attention. Son comportement dans les tournages, il y a 20 ans, 30 ans, a suscité quoi ? À part des rires et le silence. C'est compliqué aujourd'hui de crier à l'impunité de ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé il y a 20 ou 30 ans, alors même que personne n'a réagi, personne n'a déposé plainte et personne n'a dénoncé. C'est toujours compliqué de juger quelque chose à l'aune d'un progrès et d'une société qui a évolué. Donc voilà, ça c'est ma première remarque. Et puis, cette question d'impunité, soyons très clairs, Gérard Depardieu ne va plus tourner. J'avais même peur, moi, il y a quelque temps, que France Télévisions refuse de diffuser ses films. Visiblement, c'est plus la décision qui
sera prise. Pourquoi vous aviez peur ?
Parce que j'ai cru comprendre dans un communiqué ou dans une information...
Et vous pensez que ça aurait été...
Oui, parce que...
Ça aurait été pas bien, en gros.
Il y a la juste peine et il y a le bannissement, en fait. Et Danton doit pouvoir continuer à exister, et Cyrano de Bergerac aussi, et un comédien n'est pas un film.
Oui, très probablement. Moi, je regarderai Cyrano de Bergerac. Je n'irai certainement pas au cinéma maintenant pour payer ma place pour aller voir Gérard Depardieu.
Merci en tout cas à toutes les deux, Laure Hennig, Marie Dosé, d'avoir été ce matin au micro d'Inter.